Bonjour à tous, bonjour à toutes, vous êtes sur Radio Emma et nous sommes le mercredi 28 juin 2017 avec le temps plein. Alors, qui y a aujourd'hui en studio avec nous ?
Logan.
Salut Logan.
Margot.
Bonjour Margot, tu es là pour la première fois depuis longtemps ?
Ouais.
Redis-moi ton âge, s'il te plaît.
15 ans.
Quel âge ai-je ?
Oui, voilà.
Alors, re-bienvenue à la radio. À côté de toi, il y a...
Edwin.
Ensuite...
Hippolyte.
Bonjour Hippolyte, toi tu es là vraiment pour la première fois, quel âge as-tu ?
15 ans.
15 ans, d'accord, bienvenue à la radio. Ensuite, à côté de toi...
Tienne.
Oui, salut Tienne. Et puis...
Armel.
Et...
Aman.
Et Aman. Alors bienvenue à tous, aujourd'hui c'est une émission un peu spéciale parce qu'on est vraiment très heureux de recevoir Florence qui est avec nous aujourd'hui en studio et qui, contrairement à d'habitude quand on reçoit un invité en fait sur... qui fait l'objet de l'interview sur son adolescence, etc., et son parcours. Florence est plutôt là pour nous proposer un projet, et c'est ce dont nous allons parler, en fait, pendant tout le courant de cette émission. Évidemment, on écoutera encore des morceaux de musique, comme d'habitude. Mais entre-temps, voilà, Florence va nous expliquer la raison de sa présence. Bienvenue, Florence.
Bonjour.
Parmi nous.
Bonjour. Donc là, je suis venue aujourd'hui vous parler d'un projet qu'on va faire ensemble, qui s'appelle Mosaïque au jardin. Donc, on va... bien évidemment, aller au jardin tous ensemble. Et on va essayer de faire ce que j'appelle des conversations au jardin. Voilà. Donc, on va essayer ensemble d'imaginer une vie secrète, une vie cachée qui se dissimule. Ça peut se dissimuler sous l'écorce des arbres, ça peut se dissimuler au coin d'un talus, sous les herbes. Voilà. Donc, on va essayer un petit peu de laisser parler notre imaginaire et de découvrir ce jardin d'une autre façon.
Alors, c'est vrai qu'on a la chance d'avoir un immense jardin dans l'hôpital Salvatore et on voudrait essayer d'en profiter, on voudrait essayer de vous le faire découvrir autrement. Et grâce à Florence, en fait, on va faire pas mal d'explorations, mais aussi des explorations sonores, et puis aussi des constructions, et puis aussi des bruitages. Et sachez qu'à la fin de cet atelier, de ces séances d'atelier, vous repartirez avec un CD, chacun. Voilà, justement l'ensemble des choses, des sons que vous aurez créés. Donc ce sera assez sympa. On en reparlera un petit peu plus, de façon un peu plus approfondie dans quelques instants. Mais on va d'abord s'écouter un petit peu de musique tout de suite. Céline Dion, Encore un soir. Tu veux nous en parler, Edwin, rapidement ?
Bah, en fait, j'ai entendu à la radio la première fois. Mm-hmm. Et elle me plaît beaucoup parce que c'est tout simplement... le texte, le message qui est transmis, la mélodie, le tempo, enfin, je trouve que c'est une chanson très douce, très calme, qui est déstressante, qui donne envie de l'écouter, tout simplement, qui est super belle, rien que pour les paroles, c'est un texte rempli d'émotions, je trouve, donc...
Ok, bah, en tout cas, tu nous donnes envie de l'écouter.
Voilà.
Alors, c'est parti pour un peu de détente avec Céline Dion, Encore un soir, à tout à l'heure.
Une photo, une date, c'était n'y pas croire. C'était pourtant hier, mentir et ma mémoire. Et ces visages d'enfant, et le mien dans ce miroir. Oh, c'est pas pour me plaindre, ça vous n'avez rien à craindre. La vie m'a tellement gâtée, j'ai plutôt du mal à l'éteindre. Oh mon Dieu, j'ai eu ma part. Et bien plus à tant d'égards. Mais quand on vit trop beau, trop fort, on en oublie le temps qui passe. Comme on perd un peu le nord au milieu de trop vastes espaces. À peine le temps de s'y faire, à peine on doit laisser la place. Ou si je pouvais encore un soir, encore une heure, encore une larme de bonheur, une faveur comme une fleur, un souffle, une erreur, un peu de nous, rien de tout, pour tout se dire encore ou bien se taire en regard, juste un report, à peine encore, même s'il est tard. Jamais rien demandé, ça c'est pas la mer à boire. Allez, face à l'éternité, ça va même pas se voir. Ça restera entre nous, au juste un léger retard. Y en a tant qui tuent le temps, tant et tant qui le perdent ou le passent, tant qui se mentent, inventant les rêves des instants de grâce, où je donne ma place au paradis, si l'on m'oublie sur terre. Encore hier, encore au soir, encore une heure. Comme une fleur, un souffle, une erreur. Un peu de nous, rien de tout, pour tout se dire encore ou bien se taire en regard. Juste un report, à peine encore, je sais, il est tard. Juste un baiser, un baiser. Encore un soir, encore une heure. Un peu de nous,
encore un soir, Céline Dion. Eh ben écoute, vraiment, moi, je la connaissais pas du tout. Elle est connue, cette chanson, ou
oui.
C'est quoi? D'accord, salut, ouais. Je ne sais pas sur quelle planète j'habite. C'est pas grave. Alors, on va continuer donc avec Florence, qui continue de nous présenter l'atelier que nous allons faire.
Alors, je vais vous poser quelques petites questions. Donc déjà, est-ce que certains d'entre vous ont déjà visité le jardin?
Oui.
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 Mais également.
Bon.
Qu'est-ce qui veut en parler?
Vas-y, Margot.
Ben moi, je trouve ça très dommage parce que je l'ai connu avant qu'il y ait eu la razzia de devant. Là. Parce qu'avant,
tu l'as connu il y a très longtemps.
Oui, ouais, wow. Ma mère travaillait ici, en fait. Et avant, il y avait des arbres tout devant l'entrée. Et ils ont décidé de rénover le jardin. Et donc, pour faire plus moderne, ou je ne sais pas pourquoi, ils ont rasé tous les arbres. Ils ont coulé une sorte de grande esplanade en béton. Et moi, je trouve ça très dommage parce que du coup, il y a plein d'arbres qui ont été coupés et c'est pas pour autant plus joli.
Mais est-ce qu'il n'y a pas des arbres qui ont été replantés, donc du coup? Si on en a enlevé certains, peut-être qu'on en a rajouté ailleurs, non?
Il y en a toujours, mais il y en a ceux de devant. En tout cas, ils étaient hyper jolis et ils ne sont plus.
Tu te rappelles ce que c'était comme arbre?
Je sais pas, maintenant c'est des magnolias, mais...
Non, les magnolias, eux, ils n'ont pas bougé, ils ont toujours été là. Et ce qu'on a enlevé, enfin, ce qu'ils ont enlevé, ce sont des tilleuls.
Des tilleuls.
Ils ont enlevé des tilleuls, ils en ont laissé, en fait, sur l'allée du fond.
Ah oui.
Mais tout ce qui est devant, en fait, ils les ont enlevés. Mais en effet, Florence a dit juste, ou a vu juste, ils ont replanté de nouveaux arbres, effectivement, à la place. Est-ce que le reste du jardin, en revanche, t'évoque quand même quelque chose?
Oui, il est assez joli. Et puis pour un hôpital, c'est bien quand même. Enfin, avoir un jardin, c'est hyper rare. Donc c'est agréable.
Et moi, je voulais rajouter un truc. Je connaissais pas, enfin, je sais pas comment c'était avant. Mais là où il y a un espèce de tout petit carré d'eau avec un canard tout le temps, il n'y avait pas plus d'eau avant là?
En fait, pendant assez longtemps, il n'y avait pas d'eau du tout dans ce bassin. Mais c'est un bassin qui existe depuis très longtemps, effectivement. Et qui a été un peu remis au goût du jour, justement, quand le jardin a été rénové.
Parce qu'en fait, juste à côté, il y a un petit pont en bois. Du coup, je sais pas s'il y avait plus d'eau.
Non, pas particulièrement en fait, c'était un enjambement et même le petit pont en bois a été refait à l'occasion justement de la réfection du jardin. Ah. Comment toi tu le ressens ce jardin, comment tu le trouves à Man?
Ouais, il est bien, c'est juste l'herbe au sol, j'ai l'impression qu'elle est un peu moins bien entretenue par exemple, elle est toute...
C'est un peu aride, tu veux dire?
Oui, voilà.
Mais on est dans le sud.
Mais c'est pas moche.
Voilà, mais on est dans le sud. Alors c'est, peut-être ça fait des contrastes, peut-être que le jardinier qui a créé ce jardin, il avait vraiment envie de donner un contraste aussi de couleur. Parce que les herbes, quand elles sont sèches, elles ont la couleur de la paille. Et ça, ça fait un contraste avec la verdure, tout le vert sur les feuilles, les feuillages, quoi, non ?
Oui.
Et puis surtout, ça correspond à la saison, puisqu'en fait, il y avait quand même des étendues de pelouse verte pendant assez longtemps, avant que ça devienne tout sec.
Ah, mais ça, je ne savais pas.
Et oui. En fait, c'est vraiment, ça va avec, au gré des saisons, en fait. Quoi d'autre ?
Alors, est-ce que vous connaissez le land art ?
Oui.
Hey.
Qui est-ce qui m'en parle ?
C'est quand on s'exprime en faisant des dessins ou écrire des mots, ça, avec des matériaux de la nature, comme des cailloux, des bois, des feuilles, des galets.
Oui.
Edwin ?
Enfin, moi, je crois aussi que normalement, les œuvres du land art sont exposées uniquement dans la nature et non pas dans... Par exemple, si on avait une construction, un tableau, une sculpture, bon, n'importe quoi, fait avec des matériaux 100% enfin, naturels, eau, enfin, cailloux, enfin, galets, bois, feuilles, mais qui serait dans un espace comme un musée ou exposé dans un musée, ce ne serait pas vraiment du land art. Normalement, l'œuvre doit rester dans le milieu naturel.
Oui, en effet. Et puis aussi, l'œuvre disparaît avec les saisons. Et ça, ça fait partie vraiment de l'intérêt du land art.
C'est-à-dire que c'est une œuvre éphémère, en fait. Finalement, on l'installe et puis après, la nature reprend le dessus et elle disparaît au fur et à mesure.
Oui, c'est ça.
C'est beau. J'adore ce concept, moi. Est-ce que vous avez vu des pièces de land art ? Est-ce que vous avez vu des images ou même...
Oui, j'en ai vu dans le cadre d'un cours d'art plastique.
D'accord, tu dis ça, t'as l'air trop blasée.
Ouais, voilà, c'était pas... Enfin, comme ils nous ont présenté, c'était pas super palpitant. Et puis après, ils nous ont amené justement nous-mêmes en faire. Et je trouvais pas ça très pertinent.
C'est vrai.
Ouais.
C'est dommage, c'est que ça a peut-être pas été très bien fait. Parce
non,
que
ça a pas été bien fait, je trouve, justement.
Ah ouais,
parce que
magnifique.
Non, au contraire, c'est très intéressant, justement. Mais je trouve que ça a été... Enfin, ça a gâché, on va dire, la beauté, la légèreté du land art, quoi.
Tienne, est-ce que toi, t'as déjà vu des pièces de land art ?
Non.
Non ? Est-ce que ça t'intrigue, là, tout ce qu'on se dit autour de ça ?
Oui.
T'imagines quoi, par exemple ?
Enfin, je sais pas, je vois pas trop comment c'est, quoi. Enfin, j'arrive pas trop à imaginer.
Alors, justement, je vous ai amené un livre. C'est un grand livre.
Ça tombe trop bien.
Hein ? Mais bon. Donc ça, c'est un artiste qui s'appelle Nils Udo. Donc, c'est un livre que j'avais acheté parce que j'ai eu un coup de cœur pour son travail. C'est un monsieur d'un certain âge, hein, puisqu'il est né en 1937, il est allemand. Et donc depuis les années 80, il travaille uniquement avec la nature. C'est-à-dire qu'auparavant, le paysage, dans l'histoire de l'art, les artistes, les peintres, plus particulièrement, représentaient la nature, hein, grâce au tableau. Et là, il y a eu un mouvement artistique où... Les artistes ont pris conscience que finalement, le tableau, ben, c'était la nature. Donc, ils interviennent directement dans le tableau, dans la nature.
Il est toujours en vie ?
Oui.
Il est toujours en activité ?
Quand j'étais petit, en CP, j'avais fait des nids comme ça. Avec ma classe, en classe verte, on avait fait... en fait, ils avaient fait un atelier pour qu'on fasse des nids. Comme ça.
Alors là, c'est vrai que moi, c'est un livre que j'avais. Hein. Ce n'est pas que je veuille que vous fassiez des nids, parce qu'on va faire des abris miniatures pour protéger donc, des petits animaux ou des petits insectes. Ou si aucun animal existant vous plaît, vous pourrez tout à fait créer votre propre animal.
D'accord.
D'accord, hein, on travaille vraiment sur l'imaginaire. Alors là... Moi, c'est le livre que j'avais, donc c'est celui que je vous amène, parce qu'en plus, c'est pratique. On voit bien les photos. Vous avez toute une déclinaison de nids qu'il a fait à travers tout le monde. C'est-à-dire, par exemple, il se trouve en Provence, et là, il va avoir l'idée, dans un espace donné, de faire un nid, parce qu'il est inspiré. Et puis, il va se retrouver au Japon, et pareil, ça va un petit peu se déclencher comme ça. Et quelle que soit la végétation... dans laquelle il se trouve, ça l'inspire suffisamment pour élaborer des projets. Et je précise que les projets de Nils Udo sont à des échelles très, très grandes. Par exemple, ce nid est immense. Il est fait de branchages. On pourrait croire que c'est un oiseau qu'il a construit, un oiseau comme une pie, par exemple, je ne sais pas. parce qu'il y a, il, y en a, il est vide. Mais c'est un, par rapport aux arbres qui sont autour, il est immense ce nid. Parce qu'il se confronte à la réalité de la nature. S'il est dans une sur une montagne, il va essayer de faire quelque chose qui soit le plus possible à l'échelle de la montagne. Et puis, il peut faire des choses un petit peu plus délicates. Donc, je vais faire circuler. Alors, il a fait aussi des nichoirs. Là, pour l'instant, on va quand même regarder le nid. Vous allez un petit peu regarder les différents... Là, ce sont des tout petits nids et des choses très poétiques qu'on peut faire avec de l'eau, avec... On peut faire tellement de choses.
Alors, pendant que le livre circule, tu veux nous dire, Aman, toi, l'expérience que tu en avais retirée de cette fabrication de nids avec ton atelier, justement?
C'était vraiment bien. Parce qu'en fait, ils avaient une fiche avec les différents oiseaux qui faisaient différents nids. Ils se ressemblaient, mais c'était quand même pas exactement pareil. Et par exemple, à quelle hauteur ils le faisaient? Par exemple, il y avait des oiseaux qui le faisaient par terre, il y avait des oiseaux qui le faisaient dans les arbres. Et du coup, tu choisissais et tu essayais de reproduire à peu près le même nid. Et du coup, par exemple, moi, et le faire à la bonne hauteur. Après, tu le laisses à la bonne hauteur. Enfin, voilà.
Waouh! Et comment t'arrivais à le construire, ce nid? Parce que du coup, ça te donne à peu près l'idée de ce que font les oiseaux eux-mêmes avec leurs petites pattes.
Ouais, ils nous avaient un petit peu expliqué. Puis en gros, on entremêlait des petites. Tout ce qu'on trouvait par terre, comme font les oiseaux.
Voilà, tout à fait. On va faire des abris. Puisque Alors, d'abord, je vais poser la question. Annie. Pour vous, qu'est-ce que ça représente, le nid?
Alors, pour moi, le nid, c'est l'endroit où la femelle pond les œufs et où elle les couve, justement. Donc, c'est là où vont naître leur progéniture.
Un nid, c'est le lieu de vie d'un oiseau, finalement.
Est-ce que c'est sa maison?
Ça peut être aussi un peu plus abstrait. Un nid, c'est un endroit qui nous dissimule, mais qui est très confortable, non?
Du point de vue pragmatique, pour un oiseau, c'est là où il met ses œufs. Après, c'est sûr que, on peut l'interpréter de la façon dont on le veut, quoi. Comme l'expression, quand on dit on est dans un nid douillet, finalement... Ça veut dire on est dans notre cocon, on est tout bien, au chaud, dans un endroit confiné où on se sent bien, etc. Mais le nid pour un oiseau, en fait, c'est pas ça. C'est juste l'homme qui s'est approprié cette vision du nid.
Oh, tu crois que les oisillons se sentent pas protégés dans le nid?
Si, mais je pense pas que l'homme emploie l'expression nid douillé de la même façon qu'un oisillon, si vous voudrez dire ce qu'il ressent. Disent oui, je me sens. Lui, il se sent en sécurité dans le nid. Mais tout ce qu'il attend, c'est voler.
Il y a des prédateurs hein, dans la nature.
Ah oui.
C'est pour ça qu'ils sont cachés, les œufs. Par exemple, la pie, elle est connue parce qu'elle vole les œufs des autres nids. Elle les tue. Et voilà. La pie, c'est vraiment un oiseau, pour certains oiseaux, qui est dangereux. C'est pour ça qu'il faut qu'il se dissimule vraiment très bien.
Oui, mais donc voilà, c'est un sentiment de sécurité, c'est pas un sentiment de bien-être.
Ça peut se rejoindre en même temps. Et puis je trouve ça intéressant ce que tu dis, parce que ça veut dire qu'on extrapole à partir de quelque chose d'assez pragmatique et d'assez concret vers quelque chose de représentatif de ça. Ça veut dire qu'on peut... effectivement se dissimuler, effectivement se cacher ou se terrer, j'allais dire, parce que c'est un nid. Mais en même temps, c'est aussi un lieu dans lequel on peut se sentir en sécurité et donc bien, tu vois, forcément. Et puis ça rappelle un peu ce que tu disais tout à l'heure, la maman. Donc quelque part, il y a aussi ce côté un peu de lien filial, un peu maternel. Et je trouve que l'extrapolation, elle a assez du sens. Je pense qu'un oisillon, s'il parlait, peut-être, il pourrait dire « Moi, je me sens protégée ici. » C'est le bien-être absolu. Toi, Armelle, pour toi, le nid, c'est quoi? Ou l'abri, d'ailleurs?
C'est pareil, c'est un endroit pour que les animaux ils se sentent en protection et ils sont un peu comme chez eux. Après, chez eux, c'est la nature, mais c'est leur protection, je dirais, un peu comme leur carapace.
Mais c'est très élaboré, hein? Leurs nids sont très élaborés. Vous avez déjà vu des documentaires avec les oiseaux qui construisent les nids?
Oui, ils se servent de leur bec. Et d'ailleurs, c'est assez impressionnant, je trouve, l'agilité qu'ils ont avec leur bec et leurs pattes, parce que, ils sont très agiles. Et
Moi, j'avais vu un reportage où il y avait dans un cube en plastique une noix, enfin, ou un fruit sec. Et on mettait à disposition différents outils à un oiseau. Et il sélectionnait l'outil, et il passait à travers des trous. Enfin, donc, il se rendait compte qu'il y avait le cube en plastique. Donc, après, il prenait le trou. Donc, il raisonnait vraiment et il avait vraiment une agilité avec son bec. C'était assez impressionnant.
C'est incroyable. Moi, je trouve ça assez magique.
Matt, tu vas dire quoi ?
J'ai vu aussi une fois dans un documentaire, il y a une race d'oiseaux qui... en fait, c'est les mâles pour séduire les femelles. Ils font le plus bel abri, en fait. Les mâles, ils construisent... par exemple, il y a plusieurs mâles et une femelle. Et ils construisent... Bref, il y a des mâles et des femelles. Et ils construisent des abris. Et après, il y a les femelles qui passent et elles regardent tous les abris, puis elles choisissent celui qui est le plus joli. Et elles vont avec le mâle qui ont fait le plus joli abri.
Et alors, justement, ces mâles, ils cueillent des fleurs. C'est pour ça. Que ça soit beau, parce que les couleurs, il y a certaines couleurs, je ne peux pas vous dire lesquelles, mais il y a certaines couleurs qui attirent les femelles. Et alors, ils ramènent des fleurs, des pétales, mais ils ramènent aussi, par exemple, un papier de chewing-gum aluminium, parce que ça brille. Voilà. Donc, c'est à la fois très poétique, puis c'est rigolo, quoi, puisqu'il y a de tout, quoi, dans ces lits.
Je trouve ça assez stupéfiant, personnellement. Hein. Franchement, cette élaboration-là. On va faire une petite pause en écoutant Nirvana. Margot, tu veux nous dire quelque chose là-dessus ? Pourquoi absolument du Nirvana, d'ailleurs ?
J'aime beaucoup Nirvana. Mm-hmm. C'est une copine, en fait, qui avait... Enfin, elle a regardé les musiques que j'écoutais et elle m'avait dit que j'aimais sûrement Nirvana. Et du coup, j'avais écouté et ça m'avait effectivement beaucoup plu.
Et ben voilà, elle était tombée dans le mille. Et nous, on va se régaler avec Come As You Are pendant que vous regardez les livres. À tout à l'heure. Nirvana, Come As You Are. Vraiment, alors là, dans le genre morceau culte, voilà quoi, on y est quoi, on est en plein dedans. Donc c'était une petite respiration au milieu de notre discussion sur la nature. Alors, Florence.
Oui. Alors, donc là, j'ai amené d'autres livres. J'ai sélectionné quelques photos qui ont été faites par un photographe artiste qui a une sensibilité, bien sûr, aux insectes, pour qu'on regarde ensemble s'il y a un insecte qui vous inspire. Alors, je vous montre directement. Par exemple, là, il y a un insecte qui a l'art du camouflage, puisqu'on parle des abris qui servent à se cacher.
C'est donc un insecte, puisqu'on a la radio qu'on va décrire, c'est-à-dire qu'il ressemble à une feuille, complètement. Et il pourrait, Margot, si tu pourrais le décrire là pour la radio, par exemple.
On dirait une feuille.
Voilà. D'où l'art du camouflage, ouais, quoi. Ouais. C'est assez impressionnant.
C'est un peu comme le phasme, sauf que c'est en feuille.
Mm-hmm. Donc on dirait presque une feuille de platane, c'est assez vert, avec des bords jaunes un petit peu, non?
Ouais.
Voilà.
Un petit peu, oui. Alors là, on passe à une nouvelle photo. Là, je les ai prises parce que ça montre que les insectes, notamment les scarabées, ça fait un petit peu comme des lucioles dans la nuit, un petit peu des petites lumières. Donc ça aussi, c'est intéressant d'imaginer, parce qu'on peut aussi imaginer une vie secrète. C'est quand même dans l'obscurité, hein, puisqu'ils se cachent et tout sous le feuillage, etc. Donc là, c'est une photo qui est sympa, parce que ça nous fait penser un petit peu à des petites lumières comme ça qui brillent dans l'obscurité.
Vous avez déjà vu, vous, des lucioles la nuit, le soir?
Ouais.
Ouais.
Non.
Aman?
Moi, j'ai déjà vu des vers luisants, mais pas de lucioles.
Ah.
Et okay. Alors, c'est comment, les vers luisants?
C'est un petit truc vert fluo qui est par terre.
Et tu reconnais que c'est un ver ou pas spécialement?
Pas spécialement. Hein. C'est, vu que c'est dans le noir, et le fluo, en fait, c'est brillant, mais... C'est brillant, mais c'est un peu flou, quoi. On ne peut pas très bien le voir.
Mais toi, ça te fait penser à quoi? Quand tu as vu ça la première fois, tu as pensé à quoi?
Au dessin animé avec les vers fluo. C'est la première fois que j'en voyais, en fait. Dans les dessins animés, ils sont représentés tout fluo, là, tout rien.
Pas mal. Et les lucioles, toi, Margot, c'était comment, elles volaient?
Alors, ouais, en plus, je les ai vues, j'étais en Amérique. C'était à Washington, on avait fait avec mes parents et des amis à eux un grand barbecue dans les jardins. Parce que là-bas, il y a des barbecues à disposition et tout. Et on était le soir, et ouais, il y avait plein de lucioles. Et nous, on était petits, alors c'était à qui attraper la luciole d'abord.
Est-ce que ça faisait un bruit? Est-ce que tu te souviens d'un bruit?
Non.
Enfin, oui, s'il y en avait beaucoup, tu comprends?
Oui, oui.
C'est parce que tu m'as dit qu'il y en avait beaucoup. Ouais,
ouais. Ah, donc, un comme un flottement, un petit... comme ça.
Bah oui, bah oui. Oui, parce que ça s'entend, quoi, oui, hein, les déplacements dans l'air. Alors là, je vous montre une photo d'un scarabée. Enfin, je ne sais pas vraiment s'il est... Il doit être de la famille des scarabées. Il est quand même original, non? Il n'est pas un peu pop?
Il ressemble à une mouche.
À quoi?
Il ressemble à une mouche.
Tu pourrais le décrire, Aman, dans le micro?
On dirait un scarabée qui a la forme d'une mouche. Enfin, en fait, il a deux yeux, quoi.
Mais enfin, il a quand même une particularité, non? Il n'a pas quelque chose de différent?
Bah, il a des couleurs flashy.
Et voilà.
Au milieu, il a un trait jaune. Enfin, c'est tout droit, quoi. Enfin,
ouais. C'est bizarre que la nature fasse un trait aussi droit sur un animal.
C'est ça qui est bizarre.
Il a quoi d'autre comme couleur, Tienne?
Il a les yeux rouges. Il est brillant. Enfin, je sais pas comment expliquer.
Tu le trouves beau ou pas, par exemple?
Non, il est... Moi, je le trouve pas beau, mais...
Moi, je le trouve très joli.
Ouais.
Il est impressionnant, moi, je trouve. Il est pas beau, mais il est impressionnant.
Et voilà, c'est ça.
Alors, là, c'est pour ceux qui aiment les choses très légères et très discrètes.
C'est une libellule.
Mais elle est particulière, parce qu'en général, les libellules, elles ont des couleurs, non?
Ouais.
Comment elles sont, ces couleurs, en général?
En général, les libellules peuvent exister de plusieurs couleurs, mais c'est des couleurs assez flashy, peut-être. Généralement vertes, ou un mélange de noir et de jaune, rouge... Des couleurs primaires, enfin.
Bleu, des fois aussi.
Bleu, exactement. Donc, des couleurs, non, assez voyantes, assez flashy.
Ah, c'est marrant, parce que moi, j'ai le souvenir des libellules avec des couleurs plutôt, justement, douces, mais pas rouges, justement.
Ouais,
plutôt
bleu, vert,
voilà, exactement.
Ah, rouge aussi, j'en ai déjà vu des rouges.
Enfin, voilà, donc ça, c'en est une qui est très sobre. Elle est très design. Là, ce sont des papillons un petit peu particuliers. Qu'est-ce qu'ils ont de particulier?
Ils ont quatre...
En fait, ils ont la...
Ils ont quatre ailes, non?
Mais les motifs, on dirait la nappe de ma grand-mère.
On peut voir?
Ah, ils ont une, enfin, leur, ils ont une trompe très importante. Elle n'est pas enroulée. Normalement, elle est enroulée. Il la déroule pour butiner, mais là, elle est...
Elle est assez épaisse aussi.
Ouais. C'est impressionnant. On dirait un peu... Ils ont une épaisseur un peu comme les papillons de nuit. Enfin, je ne sais pas si c'est pas des papillons de nuit.
Oui, ah, je pense.
On dirait que c'est un mix entre deux animaux.
Ouais.
Bah, moi, ça me fait penser entre un mélange avec un scarabée, justement, et un papillon.
Ce qui est, enfin, moi, ce qui me surprend, c'est ce qui est surprenant, je trouve, c'est que bon, déjà la forme, comme dit Edwin, du corps, on dirait un autre insecte à qui on a greffé deux paires d'ailes, mais les deux ailes du dessus, elles n'ont aucun rapport avec les deux ailes du dessous. Comme s'il y avait deux paires collées l'une à l'autre, mais qui n'avaient aucun rapport, quoi.
C'est drôle, parce que tout ce que vous me dites là, c'est comme si, en fermant les yeux, j'avais l'impression d'avoir sous les yeux un insecte complètement hybride.
Oui, c'est ça.
Comme un mélange, ouais, en ouais. fait...
C'est exactement ça.
Vachement intriguant.
Et on va finir sur...
Ah oui, je connais ça.
C'est quoi, Aman?
Bah, en fait, on dirait un peu une tête d'hibou.
Mais c'est quoi comme animal au départ, tout court?
Bah, c'est un papillon, mais ah. Il a deux, en tout cas, on dirait deux gros yeux sur ses ailes. Et sur les côtés, on dirait un pelage d'hibou, la forme de ses ailes, on dirait... un visage d'hibou avec ses oreilles. Enfin, en fait, c'est une tête d'hibou.
Alors, c'est peut-être un hibou qui s'est réincarné en papillon, non?
Ouais, je sais. Hein?
Voilà, alors pour les photos, c'était quelque chose. Est-ce qu'il y en a déjà qui ont une petite idée, puisqu'on doit réaliser des abris, de quel insecte ou petit animal ils auront envie de créer un, pour lequel ils auront envie de créer un abri?
Pour une sauterelle.
Mmh. Ouais. Aman, t'allais dire quelque chose?
Un gendarme.
D'accord.
Que j'ai remarqué qu'il y en avait pas mal dans le jardin des gendarmes, je veux bien faire.
Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont envie d'un. Qui
Logan,
ont choisi...
est-ce que tu aurais un petit animal ou un insecte auquel tu pourrais penser?
Non, je pense que je vais faire des gendarmes aussi.
Mmh. On va avoir toute une colonie de gendarmes alors.
Il y en a énormément dans le jardin.
Ah oui.
Et toi Edwin, est-ce que tu penses à un type d'animal?
Bah, eh bien, bah, quelque chose d'assez classique, une cabane à oiseaux.
C'est mignon. Comment on dit, ça porte un nom ça, non?
Un perchoir,
ouais,
un nichoir.
Ouais, voilà, un nichoir, voilà c'est ça. Ok. Et donc du coup, en hauteur je suppose?
Bah oui.
De fait.
Alors là, on a quand même dans ce livre des perchoirs faits par Nils Sudo qui sont quand même assez extraordinaires.
Tu vas pouvoir t'inspirer. Mmh. Pendant qu'on regarde encore les écorces et les perchoirs, on va écouter une petite chanson. 21 Pilots, Stressed Out. Est-ce que tu veux dire un truc là-dessus, Aman?
Non, c'est bon. Juste écouter parce qu'elle est très agréable à écouter.
Magnifique. Et c'est superbe de regarder des livres sur la nature en même temps qu'on écoute ça. Alors c'est parti. 21 Pilots, Stressed Out.
C'est ça quand même.
I wish I found some better sounds no one's ever heard. I wish I had a better voice that sang some better words. I wish I found some chords in an order that is new. I wish I didn't have to rhyme every time I sang. I was told when I get older all my fears would shrink, but now I'm insecure and I care what people think.
My name's Blurry Face and I care what you think. My name's Blurry Face and I care what you think. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out. We're stressed out.
Sometimes a certain smell
smell will take me back to when I was young. How come I'm never able to identify where it's coming from? I'd make a candle out of it if I ever found it. Try to sell it, never sell out of it. I'd probably only sell one. Maybe to my brother, cause we have the same nose, same clothes, homegrown, a stone's throw from a creek we used to roam. But it would remind us of when nothing really mattered. Out of student loans and treehouse homes, we all would take the ladder.
My name's Blurry Face and I care what you think. My name's Blurry Face and I care what you think. Wish we could turn back time to the good old days. When the mama sang us to sleep, but now we're stressed out. Wish we could turn back time to the good old days. When the mama sang us to sleep, but now we're stressed out.
Used to play pretend, give each other different names. We would build a rocket ship and then we'd fly it far away. Used to dream of outer space, but now they're laughing at their face, saying, wake up, you need to make money. Yeah. We used to play pretend, give each other different names. We would build a rocket ship and then we'd fly it far away. Used to dream of outer space, but now they're laughing at our face, singing, wake up, you need to make money. Yeah. Wish we could turn back time to the good old days. When the mama sang us to sleep, but now we're stressed out. Wish we could turn back time.
Pretend, used to play pretend, money. Used to play pretend, wake up, you need the money. Used to play pretend, used to play pretend, money. Used to play pretend, wake up, you need the money. Used to play pretend, give each other different names. We would build a rocket ship and then we fly far away. Used to dream of outer space, but now they're laughing at the face, saying, wake up, you need to make money. Yeah.
21 Pilots, Stressed Out. C'est vraiment une chanson indémodable, moi, je trouve. Enfin, elle a toujours cette qualité-là. Ouais. Alors, est-ce que vous avez vu des... Et merci, Aman, donc, de nous l'avoir fait partager. Est-ce que vous avez vu dans les différents livres, effectivement, les différentes images, des sources d'inspiration?
Alors, j'ai vu un écolier véritable.
C'est quoi ça hein?
C'est un espèce d'arbre droit, mais sauf que les toiles sont un peu arrachées. Du coup, ça fait un tronc avec des écorches qui partent du haut collé et qui décolle en une courbe vers l'extérieur. Et du coup, moi, je pensais que ça pourrait faire un abri pour les insectes qui pourraient rentrer à l'intérieur.
Oui, on dirait presque qu'il a comme des écailles décollées. Hein?
Oui, voilà, c'est
un arbre poisson. Mm.
Dans ce livre, justement, avec Nives sur le dos, on voit qu'il y a des pierres qu'il a utilisées en faisant des petits tatouages dessus. Donc, le tatouage, c'est aussi quelque chose qui permet de se cacher, de se dissimuler.
C'est lui qui a fait des dessins sur les pierres ou
oui,
elles
oui.
étaient déjà
ah, non, non, je
par
pense,
la nature
Non, on a vu ça dans les nids. Hein
oui.
En parlant de tatouage, j'ai vu un insecte que tu avais sur le dos, on aurait dit un tatouage tribal.
Ah.
Mais là, regardez les pierres dont je parle.
C'est vrai.
On dirait des petits tatouages. Parce que ce sont des pierres qui sont quand même censées représenter des œufs. Mais ce sont des œufs en pierre et donc il a tatoué pour que ça se dissimule bien.
D'accord. Donc, il a fait des dessins sur les galets.
De la peinture, tout simplement, avec un tampon. On peut faire aussi... Ça, ce sont des idées pour les futurs abris. On peut très bien faire quelque chose avec du découpage de papier canson entremêlé d'herbe ou de bois, enfin, tout ce qu'on veut. Et puis, sur les matériaux, tamponner avec de la couleur dans les tons de vert ou de terre, hein, ce qu'on veut, quoi.
D'accord. Oui, je suis d'accord avec toi, effectivement, Aman. Moi aussi, j'ai vu, d'ailleurs, sur des gendarmes notamment, parfois des dessins en fait, qui ressemblaient vraiment à des tatouages tribaux, effectivement.
Mais dans le livre,
oui.
Il y avait un insecte, c'était vraiment flagrant.
Ah oui, c'est vrai.
Quand on voit de très près, moins, mais encore quand même, mais surtout quand on le voit de plus loin, on a vraiment des tatouages.
Alors, c'est quel type, si tu peux le décrire? Est-ce que c'est de type scarabée ou de type papillon ou de type quoi, l'insecte dont on parle?
Bah, c'est un peu un scarabée, ouais. Enfin, je sais pas.
Et c'est sur son ventre ou sur son dos les...
Sur son dos.
Sur
ses ailes.
Du coup, les ailes, ouais.
Ouais.
Et il a des dessins comme, effectivement, des dessins tribaux.
Ouais, voilà, c'est ça.
Incroyable.
Moi, j'avais, je me posais une question parce que... Enfin, c'était pas une question, c'était plutôt une réflexion comme ça. Parce que je trouve ça assez paradoxal, les personnes qui veulent faire du land art...
parce que enfin l'homme d'un certain côté il est en train de détruire la nature par toutes les exploitations qu'il fait, etc. Et l'homme qui fait du land art, il essaie de se rapprocher de la nature. Enfin, je trouve ça assez paradoxal, quoi.
Ah ben justement, il faut un équilibre. Il y a des hommes qui détruisent et des hommes qui entrent en liaison avec la nature.
Oui, mais ils entrent en liaison, c'est bien, c'est artistique, c'est beau, etc. Mais je veux dire, est-ce que ça a véritablement un impact sur ceux qui font... de mauvaises choses, parce que je pense que finalement ça a plus d'impact ce que font les hommes comme le déchirement de la forêt, etc.
Bah, ça touche un public, et au plus il y a un public qui est touché par les œuvres d'art, au plus ils éduquent leurs enfants à aller contre ceux qui détruisent la nature, tout simplement.
Oui, mais le land art c'est quand même quelque chose d'assez fermé, donc ça va toucher un public assez aisé.
Ah non? C'est dans la nature. La nature, c'est ouvert à tout le monde. On ne paie pas pour aller dans la montagne. Donc,
oui,
c'est complètement gratuit.
Enfin, moi, je veux dire, moi, je me suis souvent baladée dans la nature et je n'ai jamais vu une œuvre de land art comme ça. Quoi. Mmh. Si on ne sait pas que c'est du land art, on peut penser que c'est, par exemple, un cairn.
Oui, mais si tu as un sentiment de plaisir en regardant ce cairn, par exemple, si tu as un sentiment de plaisir, de beauté, tu te dis, ah, vraiment, qu'est-ce que c'est beau, la nature, avec ses petites constructions, etc., bah, tu éduqueras tes enfants en disant, regardez comme c'est beau. Et comme ça, tu les éduqueras pour que, bah, ils soient, qu'ils protègent la nature quand ils seront plus grands, etc., avec les générations suivantes. Donc, que ça soit avec un cairn qui n'a rien à voir avec l'art, ou avec de l'art que tu découvres par hasard dans la nature, le résultat est le même. C'est un résultat favorable à la nature. Et c'est ça l'objectif. C'est peut-être de toucher des gens qui ne regarderaient pas la nature de la même façon, et puis tout d'un coup, ils tombent sur une œuvre d'art, ou peut-être qu'ils ne la reconnaissent pas comme une œuvre d'art, mais ils tombent sur quelque chose qu'ils trouvent beau, ou qui les attire. Et du coup, voilà, après, je pense que c'est un petit peu le principe de l'éducation, entre guillemets.
Après, c'est vrai, t'as raison, Margot, on croise pas tous les quatre coins de rue, enfin, tous les quatre chemins, une pièce de land art, en effet, c'est vrai que c'est assez restreint, mais le fait d'y être sensibilisé, puis le fait de savoir que ça existe un peu partout, peut-être aussi que le travail, c'est encore différent, mais si on prend une autre hauteur, une autre perspective, le travail de Yann Arthus-Bertrand, tu vois, sur la Terre vue du ciel, qui permet finalement de voir comment la nature en elle-même est un land art, tu vois ce que je veux dire, sans qu'il soit travaillé par l'homme. Ça nous donne à avoir effectivement une perspective sur la nature, dans ce qu'on peut en faire de beau, ou dans ce qu'elle a de beau en elle-même. Et à partir de là, réfléchir effectivement à comment essayer de mieux la traiter. Ça n'empêchera pas qu'il y ait des gens qui en effet la détruiront pour d'autres raisons. Et on ne va pas se voiler la face. C'est vrai que l'homme détruit la nature de toute façon, enfin, avec tout ce qu'il entreprend déjà. Mais... En effet, par rapport à ce que dit Florence, c'est une question d'éducation, et au fur et à mesure, plus on est sensibilisé à ces questions-là, et peut-être plus on ira vers une protection ou un autre regard, ou apprécier déjà, et voilà. Ça n'empêchera pas qu'il y aura toujours des gens pour détruire la nature avec différentes manifestations, qu'elles soient industrielles ou tout simplement, enfin, voilà, des visées économiques. Mais voilà, après, c'est au moins si on est sensibilisé à ces choses-là, on peut essayer de regarder les choses autrement et faire voir les choses autrement. Et après, ça se... par capillarité, ça peut se répandre. Merci beaucoup à tous pour tout ce que vous avez partagé aujourd'hui. On va se quitter avec le choix musical de Florence. Merci Florence, en tout cas, d'avoir introduit cet atelier qu'on va faire au courant de l'été. Et après, eh ben, on va aller un peu faire des repérages dans le parc. Donc on se quitte avec Keith Jarrett, Colne Concert. Est-ce que tu aurais envie de dire quelque chose à propos de cette musique?
C'est beau.
Et ben voilà, c'est comme la nature. Donc ça s'écoute tout seul. On se quitte là-dessus. À bientôt, à la semaine prochaine pour les autres. Ciao, ciao.
Au revoir.